Le monde décodé. Interview de personnages extraordinaires. Pars avec nous à la découverte de ton monde, de son histoire, de ses enjeux.
Bonjour. Lors de notre précédent podcast, nous étions restés en -323 en Grèce, où Alexandre le Grand avait formé l'empire le plus grand jamais vu, partant de la Grèce et s'étirant vers l'est jusque l'Inde. Mais à sa mort, cet empire a été partagé entre ses généraux et démantelé. C'est dans ce contexte que Rome et Carthage gagnent en importance et commencent à se disputer la domination de toute la Méditerranée occidentale. Nous reviendrons bien entendu sur l'histoire de Rome et sur la civilisation romaine dans des podcasts à venir. Mais aujourd'hui, nous nous concentrons sur les guerres puniques, conflits qui ont opposé à trois reprises Rome et Carthage. Nous allons donc voyager au cœur de la Méditerranée, vers -200, pour comprendre ces deux grandes civilisations et comment elles se sont affrontées. Commençons par regarder les deux forces en puissance. Sur ma gauche, nous avons Rome, en Italie. La ville de Rome a été fondée en -753, et au début des guerres puniques, Rome a presque imposé sa puissance à toute l'Italie. C'est une grande puissance militaire terrestre qui dispose d'une importante population de soldats. Sur ma droite, nous avons Carthage, en Afrique, dans l'actuelle Tunisie, fondée en -814. Carthage est à cette époque une grande puissance maritime qui domine la mer Méditerranée et qui dispose d'un territoire qui s'étend des rivages de l'Afrique du Nord à l'Espagne et qui comprend de nombreuses îles de la Méditerranée, la Corse, la Sardaigne, Malte, une partie de la Sicile. Elles ont donc toutes les deux leurs forces respectives et tant que durait la domination grecque, avaient des relations assez détendues. Mais après la mort d'Alexandre le Grand et le partage de son empire, les intérêts convergents vont disparaître et les deux cités vont se retrouver face à face. Je te propose de partir à la découverte de ce match en 3-7, qui finira par une victoire des Romains, mais non sans mal et avec quelques belles victoires de Carthage. Les affrontements vont tout de même durer plus d'un siècle. Ces trois guerres romano-carthaginoises ont été appelées les guerres puniques, punique étant le nom donné par les Romains aux Carthaginois. Attention à ne pas confondre avec les guerres médiques, qui étaient les conflits entre les Grecs et les Perses 300 ans plus tôt. Tu es prêt pour le début du match ? Nous sommes en -264. La première guerre punique a pour enjeu le contrôle de la Sicile, qui occupe une position exceptionnelle et stratégique entre nos deux nouveaux ennemis. Elle est juste en face de Carthage, mais aussi juste en dessous de l'Italie. Les Carthaginois ont toujours convoité la Sicile et se sont battus pour elle contre les Grecs. Et voilà que maintenant ce sont les Romains qui débarquent et convoitent leurs terres. C'est le début du premier set. Cette première guerre va durer 23 ans. Il y aura des victoires des deux côtés, et pour en découdre, Rome sera contrainte de développer sa puissance maritime, car cette guerre sera principalement sur les mers. Le conflit s'achèvera en -241 par, roulement tambour, une victoire des Romains. Rome imposera aux Carthaginois l'abandon de territoires, dont la Sicile, et une paix très dure sur le plan financier. Carthage est à genoux. Victoire des Romains. Mais Carthage n'a pas dit son dernier mot. Le deuxième set commence sur une envie de revanche du côté carthaginois. Nous sommes 23 années plus tard, en -218, et Carthage a fini par se relever. Elle a entre autres fait de nouvelles conquêtes en Espagne. Mais elle ne pardonne pas à Rome de l'avoir mise à genoux lors de la première guerre punique. C'est donc Carthage qui va prendre l'initiative de ces nouveaux affrontements. Cette guerre sera principalement terrestre, contrairement à la première, et se déroulera surtout en Italie. Elle se terminera également par la victoire de Rome, et ce malgré quelques belles victoires pour Carthage. Cette fois encore, Rome imposera une lourde défaite à Carthage, qui perdra tous ses territoires hors Afrique et devra payer une lourde pénalité financière à Rome. Mais le match n'est pas fini. Le troisième set est le plus court et se déroule exclusivement sur le sol africain, Carthage ayant perdu toutes ses possessions en dehors de l'Afrique. Rome est déjà maîtresse du monde antique, mais ne se sent pas complètement en sécurité tant que subsiste le nom de Carthage. D'autant que Carthage connaît une nouvelle phase d'expansion économique. Rome craint donc le réarmement et lance une offensive sur la ville. Le combat est désormais inégal, avec des forces en puissance nettement en faveur de Rome. Il leur faudra pourtant 3 années de siège pour en venir à bout. En -146, Carthage tombe et la ville est rasée. La destruction de Carthage met fin à 118 années de conflit et voit Rome s'imposer comme la plus grande puissance de la Méditerranée. C'est la fin des guerres puniques et le début d'un fantastique essor de l'Empire romain. Jeux, 7 et match. Mais notre compréhension des guerres puniques et de la civilisation carthaginoise ne serait pas complète sans parler de celui qui en a incontestablement été le principal héros, le célèbre Hannibal. Malgré que les guerres puniques s'achèvent sur une victoire romaine, Hannibal a remporté des victoires extraordinaires et est resté dans l'histoire comme un très très grand stratège. Je te propose donc d'en apprendre davantage sur lui via la bouche du général Scipion, son principal rival côté romain. Espérons qu'il soit objectif dans son récit. Allez, on y va! Bonjour général Scipion, pouvez-vous nous dire qui était Hannibal et comment vous avez fait sa connaissance?
Bonjour Léa. Hannibal dirigeait les troupes carthaginoises lors de la Deuxième Guerre Punique et a clairement été mon principal ennemi. C'était un stratège hors pair qui devait son génie militaire à son père, le général Hamilcar Barca, qui s'était lui-même distingué lors des premières guerres puniques. Hannibal avait reçu de son père une solide éducation militaire. Une éducation théorique, ayant été bercée des récits des batailles d'Alexandre le Grand. Mais aussi pratique, ayant combattu sur le terrain aux côtés de son père. Mais son père lui avait aussi transmis une haine farouche contre Rome, et une forte soif de revanche. Et c'est ainsi qu'au décès de son père, alors qu'il n'avait que 25 ans, Hannibal prit la tête des troupes et partit directement à l'offensive.
C'est à ce moment que vous avez fait sa connaissance ?
En effet. Sous son commandement, une ville d'Espagne fut pillée et mise à sac. Les troupes, qui avaient reconnu en lui l'énergie, l'autorité et la force de son père, s'étaient alliées sous son commandement. Nous, Romains, perçûmes directement le danger, et exigèrent des Carthaginois qu'ils nous livrent leur nouveau chef, Hannibal. Mais c'était peine perdue. Non seulement ils ne le livrèrent pas, mais ils décidèrent même de le suivre dans ses combats. Et Hannibal, comprenant que l'Empire romain voulait le détruire, décida de marcher sur Rome elle-même. Il n'avait pas beaucoup d'hommes, mais je suppose qu'il espérait qu'en chemin, des Gaulois ou des Italiens, animés par la haine des Romains, se joindraient à lui. Bien entendu, nous ne sommes pas restés les bras croisés. Nous avons essayé d'anticiper son chemin et de l'intercepter. J'ai donc réuni un nombre très important de soldats en Provence, où je l'attendais de pied ferme et comptais bien en découdre avec lui. Mais c'est alors qu'il nous surprit tous.
Comment réussit-il à vous surprendre ?
Il choisit une route absolument improbable. Les Alpes. Tellement difficile que jamais nous n'aurions imaginé qu'il passerait par là. Imagine-toi, nous étions en plein hiver, avec le froid, la neige, et il décida de faire passer ses hommes et ses 52 éléphants de guerre par des chemins de montagne enneigés et escarpés. Son choix était dicté par la volonté d'éviter les mers, puisque Rome avait maintenant la suprématie maritime. Mais aussi de créer un effet de surprise. Et ça, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y est arrivé.
Et il réussit son pari ? Il réussit à traverser ?
C'est incroyable, mais oui. Bien sûr, pas sans des pertes importantes. Il laissa en route de nombreux soldats, et bon nombre d'éléphants, mais il réussit tout de même à atteindre l'Italie avec 37 éléphants et le restant de ses hommes. Et il faut imaginer, un éléphant de guerre, dressé à l'attaque, c'est vraiment une arme redoutable. D'abord, il y a l'effet de surprise pour nos hommes, qui n'en avaient jamais vu. Mais en plus, un éléphant qui fonce sur une armée, ça peut défoncer les premières lignes et couper l'armée en deux. C'est donc redoutable. Heureusement pour nous, Hannibal avait de moins en moins d'hommes. Ni les Gaulois ni les Italiens ne l'avaient rejoint. Certes, ils n'appréciaient pas les Romains, mais visiblement ils se sentaient quand même plus proches de nous que des Carthaginois.
Donc Hannibal n'a pas eu les renforts qu'il espérait, et s'est retrouvé encore plus qu'au départ face à des ennemis nettement plus nombreux que sa propre armée.
Oui, absolument. Mais ce ne fut pas simple pour autant. J'enrage toujours en y repensant, mais il réussit à remporter 4 succès extraordinaires, et commença par nous infliger une défaite humiliante. Nous étions pourtant bien plus nombreux, mais grâce à des stratagèmes, il réussit à nous battre à plate couture. Je te l'ai déjà dit, c'était un très fin tacticien. Lors de la bataille de Cannes par exemple, il réussit à simuler un point faible au centre de son armée. Nous n'y avons vu que du feu. Nous avons cru qu'il avait fait une erreur stratégique en laissant cette partie de son armée mal protégée, et avons décidé d'attaquer ce prétendu point faible au centre. jusqu'à ce que les deux ailes, constituées de ses meilleurs soldats, ne se replient sur nous et nous encerclent. Ce fut un massacre pour nos troupes. Et une superbe victoire à son actif.
Incroyable ! Que s'est-il passé ensuite ?
Hannibal a continué sa marche vers Rome, jusque Capoue, à quelques jours de marche de Rome, où il s'est arrêté. Ses hommes avaient besoin de repos, et je suppose qu'il savait qu'il n'avait pas les ressources humaines nécessaires pour assiéger la ville de Rome. Il attendit donc patiemment son heure, et des renforts de Carthage. Mais les Carthaginois étaient partagés dans leur soutien envers Hannibal, et les renforts ne vinrent pas. Il resta donc en poste à proximité de Rome avec ses hommes. Côté romain, nous avons tenu bon. Le Sénat de Rome a choisi d'éviter l'affrontement direct avec Hannibal et son armée, et a aussi rusé pour l'affaiblir progressivement. En même temps, nous avons attaqué toutes les terres sous domination carthaginoise dans les autres régions, comme par exemple la Sicile, l'Espagne, etc. Et avons récupéré progressivement toutes leurs conquêtes. Ensuite, ma tactique de l'attirer en Afrique a été acceptée par le Sénat, et nous avons réussi à le déloger de l'Italie et à l'attirer en Afrique.
Et c'est là que vous avez fini par le vaincre ? D'où votre surnom Scipion l'Africain ?
Exactement. Nous avons enfin réussi à en venir à bout. Ce qui a enfin mis un terme à la deuxième guerre punique. Qui s'est achevée sur une victoire de Rome, et la perte pour Carthage de toutes ses possessions hors Afrique.
Merci Scipion pour ce récit passionnant. Hannibal restera à jamais dans l'histoire comme celui qui a failli faire tomber la puissante Rome. Va-t-on savoir à quoi notre monde ressemblerait s'il y était parvenu ? Mais clairement, la tâche n'était pas si simple, même pour un aussi grand stratège que Hannibal. Rome était une armée superbement organisée et forte, et bénéficiait de la démographie élevée de l'Italie, mettant ainsi à la disposition de Rome toujours plus de soldats. Ce qui n'a pas empêché Hannibal de se distinguer comme un grand génie militaire. Figure-toi que la bataille de Cannes est de nos jours toujours étudiée dans toutes les écoles militaires comme un exemple de ruse et de tactique. Incroyable, non ? Par ailleurs, nous avons hérité de pas mal de choses des Carthaginois. Comme nous l'avons déjà dit, ils étaient d'habiles marins et avaient une flotte navale puissante. Leurs techniques de navigation et leurs compétences maritimes ont laissé une influence durable sur la navigation et sur le commerce maritime. De même que les routes commerciales qu'ils avaient créées à travers toute la Méditerranée, qui ont certainement participé au développement de l'économie mondiale. Mais l'Empire romain était déjà extrêmement puissant et était en marche. Et il n'était pas bon de se retrouver sur son chemin. Lors de nos prochains podcasts, nous découvrirons plus en détail cet empire incroyable, son histoire, ses personnages majeurs. Alors à dans 2 semaines !